ses anciens, ce n'est qu'un vilain gros mot. Titre de notre document justifié aujourd'hui, car, chers amis, nous allons parler de psychanalyse et de neurosciences, c'est-à-dire de sciences humaines et de sciences dures, les deux qui se rejoignent dans un baiser fougueux nouveau dans l'histoire de la recherche, avec nos deux invités. Avant de les présenter, je vous dis pourquoi nous faisons cette émission, c'est parce que très bientôt va se dérouler à l'ULB un colloque dont le thème est passionnant, psychanalyse et neurosciences, bien entendu, aux sources de la pensée. Alors, avec un sous-titre, de la pulsion à l'action et de l'intention à l'inhibition. Beau programme que nous allons décortiquer, déguster avec vous, Sandrine de Tatte. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes prof de gym, et oui, chers auditeurs, mais également psychologue et doctorante en psychologie. Vous commencez une thèse ici. Sous la direction de notre autre invité, Ariane Bazan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes psychanalyste, docteur en biologie, en psychologie. Et vous êtes là, je crois, l'impulseuse à l'origine de ce colloque psychanalyse et neurosciences, source de la pensée. Vous travaillez donc main dans la main. Et d'abord, première question, il y en a mille des questions. Quelles questions pourrais-je vous poser? D'où vous est venue l'idée du colloque, par exemple? Vous travaillez dans ces sujets depuis quelques années, la psychanalyse et les neurosciences. On sait que les rencontres ont été un peu difficiles. Hein, les sciences dures, déniant le droit à la psychanalyse de se présenter comme science. Bon, la chose mérite d'être discutée, on peut, mais ce qui n'a dévalu pas. Mais aujourd'hui, justement, voilà que les outils de la science dure interviennent dans le débat, viennent conforter certaines intuitions de la psychanalyse ou certaines découvertes, disons, de psychologie observationnelle. Voilà. Je crois que, comme introduction, je vais arrêter parce que c'est vous que nous sommes venus écouter, Ariane, Sandrine.
Merci de l'introduction. D'où est venue l'impulsion? Donc, comme vous dites très justement, ça fait quelques années, 10, 15 ans, enfin, depuis la naissance de ce domaine que je suis dedans. Et alors, donc, la neuropsychanalyse, c'est un vaste signifiant qui veut dire tout et n'importe quoi, en particulier la position épistémologique. Des différents acteurs dans le domaine varient énormément. Dans ce domaine, il y a des chercheurs qui pensent qu'une fois qu'on aura tout bien décortiqué de la biologie, on n'aura plus besoin de la psychologie. D'autres trouvent que les deux domaines ont une équivalence et ont leur propre appareil conceptuel. D'autres encore qui pensent que, par exemple, la psychanalyse n'est qu'une structure métaphorique narrative et qu'elle n'a pas de caractère de réalité. Or, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une des phrases très célèbres de Freud, c'est « L'inconscient est le psychique lui-même, son essentielle réalité ». Donc pour Freud, qui était aussi un biologiste, il y a la biologie, il y a la psyché, l'appareil mental, qui n'est pas la biologie, mais qui a un caractère de réalité. Alors, pourquoi alors cette conférence? C'est que donc, on a une tradition d'organiser des conférences année en année en francophonie avec le cercle de neuropsychologie et de psychanalyse dont je suis la secrétaire. Et le plus souvent, il y a eu un peu un buzz, si vous voulez, un petit buzz de neuropsychanalyse autour de l'intersubjectivité. Ce sont toujours ces thèmes-là. La relation à l'autre, les neurones miroirs ont été très populaires. Ça a été un peu les neurones miroirs entre-temps sur la panacée de tout et n'importe quoi. Et un peu pour faire le contre-pied contre ça, j'avais plutôt envie de parler de l'action, de la représentation comme point d'appui ou de rencontre, parce que c'est vraiment là, d'après moi, que se rencontrent psychanalyse et neurosciences. Il y a un neuroscientifique extrêmement un génie, à mon avis, il est mort il y a 2 ans, Marc Jeanneret, qui a dit précisément qu'une action qui était investie d'intentionnalité, donc on a envie de faire, mais qui en même temps est empêchée de le faire, donc qui n'a pas possibilité d'exécuter l'intention, produit, il le dit littéralement, produit centralement une image. Donc voilà, les neurosciences à la naissance de quelque chose d'un autre ordre, de la psyché, du mental. Quand est-ce que la physiologie produit une image? Quand il y a une intention motrice bloquée. Mais Freud n'avait pas dit autrement. Freud a dit, quand est-ce que naît la psyché et le mental? Quand bébé crie, maman va interpréter le pleur, les pleurs, va lui donner le sein. Il n'y a pas encore de mental. C'est la fois suivante quand maman n'est pas là. Et que le bébé crie, il a faim, il a eu l'expérience d'avoir le sein, qu'il hallucine le sein. Donc l'action qui ne peut se faire, l'action bloquée donne émergence au mental. Et ces deux idées, donc en psychanalyse et en neurosciences, sont tellement cohérents, vraiment un point central de rencontre.
Dans l'exemple que vous donnez, il faut aussi une mémoire du vécu précédent pour que l'image soit convoquée, puisque créée au moment de l'impossibilité de l'action.
Oui, il faut déjà avoir fait l'action. Donc au début, bébé a faim, ça donne une espèce d'alarme dans le corps, et parce que le corps est en alarme, il y aura un défoulement, il va gigoter, il va crier. Les gigotements et les cris n'ont pas de statut. Mais c'est la mère qui interprète le cri, qui dit « Ah, il doit avoir faim », qui donne un statut à ce cri, et qui, de ce coup, nourrit l'enfant, et c'est comme ça que l'enfant sait, le cri a été un acte adéquat. Donc la mère donne au cri un statut d'acte adéquat. Et cet acte adéquat sera inscrit physiologiquement, et comme vous dites, c'est un traçage de mémoire. Et la prochaine fois que le bébé aura faim, il hallucinera le cri et le sein qu'il sucera, alors qu'il n'y a pas de sein.
Alors, comment dire, ça c'est l'idée de départ de votre colloque. Vous baignez dans ces questions qui ne sont pas familières, qui ne sont pas familières ni à moi ni à la plupart de nos auditeurs. Donc nous allons un peu faire le tour de ces questions, car je dis ces questions, ici vous en avez parlé d'une, une question initiale, mais il y a d'autres questions. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit topo des différentes conférences, des différents thèmes, de la, juste en les citant, en les décrivant brièvement, de la journée qui aura donc lieu le 30 novembre, avant d'entrer plus avant dans l'un ou l'autre des sujets proposés. Je pense que la conférence est gratuite, hein, c'est ça? Il faut s'inscrire? Comment ça fonctionne?
Elle n'est pas complètement gratuite, non. Il faut s'inscrire.
Oui.
Donc, il faut s'inscrire à psychanalyse-neurosciences@gmail.com, psychanalyse au singulier, neurosciences au pluriel.
On redonnera le mail bientôt.
Oui. C'est 60 euros l'inscription, mais les étudiants payent 20 euros.
Ok. Alors, le sujet. Les sujets.
Alors, les sujets. Alors, nous avons un très, très beau programme. Des pointures, tant en psychanalyse qu'en neurosciences. Donc, le psychanalyste René Roussillon, de l'Université de Lyon, parlera de la représentance et valeurs messagères de la pulsion, trois langages pour la vie pulsionnelle. Il va expliquer, d'après moi, la dynamique et l'architecture de ce que ça veut dire la pulsion.
C'est quoi la pulsion au sens, pas trop, au sens psychanalytique, mais pas au sens banal du terme? Je vois que vous regardez Sandrine de Tannes, alors de Tannes, qui commençait une thèse sur le plaisir et la jouissance.
Oui, tout à fait.
Du point de vue psychanalytique et neuropsychologique.
Exactement. Mais donc, pour répondre, essayer de répondre brièvement à la question de la pulsion, cet ancrage dans le corps d'une mobilisation motrice qui s'adresse un petit peu tous azimuts, comme le disait Ariane au préalable, parce qu'il y a quelque chose de désagréable et d'un déséquilibre corporel qui se produit et qui va se manifester par une expérience extérieure, une manifestation physique. La pulsion, mais très vite, ce que l'on prend en psychanalyse, est étayée par les fonds et donc va devenir ce que tout humain a comme moteur ou en son propre sein au départ et va employer durant toute sa vie comme étant ce qui lui permet d'avancer, d'avoir quelque chose qui aussi bien le fait poursuivre quelque chose que le poursuit d'une certaine façon. Donc c'est là où la question du plaisir et de la jouissance vient de s'inscrire, puisque à la fois la pulsion, son objectif et sa satisfaction pulsionnelle, donc d'avoir un rétablissement de ce déséquilibre désagréable, de quand on a faim au départ par exemple, mais de toutes les insatisfactions qu'on peut avoir après dans la vie, qui sont toujours de l'ordre pulsionnel au départ, et puis avec le côté de la jouissance qui, elle, est plutôt tout le chemin qui va conduire à cette satisfaction pulsionnelle, qui au départ, comme le disait Ariane, est extrêmement liée au plaisir, c'est toute l'action motrice du bébé qui gigote, qui pleure, qui va devenir jouissive et récompensante parce que par après, ça aura permis d'avoir un apaisement pour le corps, mais qui, au fur et à mesure de la vie qui avance, ne devient plus forcément lié au plaisir. Et ce qui fait que tout être humain est pris dans ce paradoxe de parfois vouloir ce qu'il n'aime pas forcément, aimer ce qu'il ne veut pas forcément non plus, et avec ce que l'on voit dans la psychopathologie de manière plus saillante, mais qui est présente chez chacun d'entre nous, qui sont ces fameuses pathologies qu'on pourrait nommer du vouloir ou de la jouissance en psychanalyse. Donc par exemple, que ce soit la toxicomanie, que ce soit tous les troubles des addictions de façon générale, les troubles alimentaires, mais voilà, ce sont des comportements qui ont apparemment une fonction pour le sujet, on pourrait dire une fonction de satisfaction pulsionnelle, et en même temps qui sont complètement ravageants à un autre niveau et qui n'apportent pas de plaisir. Pour essayer d'expliciter un peu la pulsion, mais je vois Ariane qui veut rajouter quelque chose.
Donc, pour très mécaniquement faire la différence entre pulsion et plaisir, en fait, donc, quand il y a une insatisfaction corporelle, on va essayer de rétablir l'équilibre. Ça, c'est du plaisir. Mais les actions qu'on va produire pour...
Vous voyez, mais c'est la pulsion.
Ceux-là vont être récompensés d'une autre façon que par la satisfaction. Le corps va, dopaminergiquement, accorder une valeur de récompense à ça. Ça veut dire que l'action peut tourner à vide.
L'action en elle-même est déjà, fait déjà plaisir.
Voilà. Voilà. Même si elle n'amène pas la satisfaction, elle peut tourner à vide. Et voilà.
J'ai bien compris. Par exemple, manger, c'est agréable, indépendamment de la nourriture.
Voilà. Et exactement.
Si on aime un plat qu'on n'a plus faim, on va quand même le, quand même le manger parce que c'est bon.
Exactement, ça. Parce que, par exemple, comme vous dites, des chiens qu'on nourrit intragastriquement avec de la nourriture vont quand même continuer à manger. Parce que le plaisir de manger est en soi récompensant, est en soi recherché.
Heureusement, parce que imaginez que ce soit très désagréable de devoir se nourrir. on donne pas cher de l'espèce.
Voilà,
ce serait mais ça peut être très désagréable de se faire vomir ou d'avoir des comportements de troubles alimentaires, par exemple. Et pourtant, il y a quelque chose d'une jouissance ou d'un plaisir autre, comme vous l'appelez, qui fait que ce comportement se maintient malgré tout, au-delà de toute la logique psychique dans l'histoire du sujet, évidemment, que ça prend singulièrement chez chacun.
Au-delà de la logique psychique personnelle individuelle et au-delà de la logique physiologique commune à tous.
Exactement.
Hein, les paramètres de sucre dans le sang, tout ça, bien ajusté.
Exactement, parce que c'est aussi une éthique. Hein. L'éthique est qu'il y a un bricolage qui, dès le début, ne fonctionne pas. Du fait de la jouissance, il y a une faute de bricolage ou faute de construction dans l'humain.
Câblage.
En fait, on pourrait
presque... Quand on dit dans l'humain, c'est dans les sujets qui sont sujets à ces petites déviances.
Non.
C'est tout le monde.
Oui, parce que...
Je vous laisse continuer.
Du fait que, en fait, tout le problème de l'humain, enfin non pas tout, mais un des grands problèmes humains, c'est que le corps intérieur et le corps extérieur ne sont pas en ajustement
imbriqué.
Oui, imbriqué. Par exemple,
qu'entendez-vous par corps intérieur et corps extérieur?
Donc le corps intérieur, c'est une espèce de sac qu'ont les invertébrés, avec toutes les entrailles, tous les viscères, c'est-à-dire le système respiratoire, digestif, de reproduction, etc. Ça, c'est déjà présent chez les invertébrés.
Oui.
Avec l'avènement des vertébrés, un corps extérieur s'est mis comme une poupée russe au-dessus de ça, c'est-à-dire le squelette et le muscle squelettique pour mouvoir ce squelette. Et en fait, quand par exemple le petit chaton ou le petit poulain a faim, directement il peut se lever, aller vers la mer, le chaton il peut pousser comme ça pour téter, et le poulain il peut aller téter la mer. Et tout donc ils ont un ajustement du corps intérieur sur le corps extérieur qui n'a pas trop de variabilité. Mais du fait que l'humain, c'est pas du tout comme ça, quand quelque chose va mal dans le corps intérieur, ça crie, ça gigote, on ne sait pas ce qu'il faut faire, il faut l'interprétation de l'autre.
Oui, puisque l'enfant humain est immature par rapport aux bébés mammifères, qui sont déjà presque autonomes à la limite.
Voilà, donc il faut l'interprétation de l'autre, et donc toute la société, tout l'autre, tout le socius rentre. Donne cette variabilité et donc certaines actions qui étaient adéquates à un moment donné vont bien marquer avec la dopamine, mais comme tout change, comme l'humain est un animal social qui n'est pas le même quand il a de moi que quand il avait 20 ans, tout ce qui était jouissif au moment de 2 mois était à ce moment-là un acte adéquat, reste jouissif à 20 ans, mais n'est plus du tout adéquat. Voilà, donc c'est la faute de problème de construction de l'humain, ou en même temps, naturellement, l'ouverture de l'humain, hein, c'est naturellement la créativité, etc.
Est-ce qu'on peut dire que, au fond, ce que vous venez de nous décrire, c'est l'irruption du sociologique, de l'interpersonnel subjectif, au cœur même du fonctionnement biologique naissant d'un être qui n'est pas encore tout à fait constitué?
Oui, entre autres, ce que j'essaie de dire, entre autres, c'est que par rapport à l'optimisme, par exemple, qu'on a, par exemple, en neurosciences et en neuropsychanalyse, que, par exemple, grâce à la plasticité neuronale, tout est possible, tout est matière d'acquisition, d'apprentissage. Si on a des trous, des pertes, des traumas, on va recultiver, réapprendre, réacquérir. Par rapport à cette position-là de l'éthique, de tout est possible et le développement total est possible, il y a des limites, la jouissance, on a affaire, on est aux prises avec des limites internes jouissives. On va être aux prises avec une jouissance adulte qui ne nous sert pas, mais qu'on va continuer à vouloir.
Et qui a été quand même opérée par le langage aussi. Hein. Quand on parle de l'interprétation de l'autre au départ, ce n'est pas seulement le geste de la mère qui va prendre son enfant à son sein, c'est aussi tout le langage qu'elle va opérer autour et qui fait qu'en psychanalyse, on travaille aussi sur le langage et sur ce qu'on nomme les signifiants, c'est-à-dire ces fameux mots, ces fameuses parties de mots qui, depuis la prime enfance, le premier moment, ont été quelque chose qui a eu une empreinte sur le corps, avec cette sorte de traçage au corps par le langage. Pour le fait que oui, on est bien éloigné des animaux pour ça, tout en étant très immature et très dépendant du langage.
Le langage, sans vouloir trop le relativiser, et aussi les expressions du visage,
les jeux
corporels, dans les bras, faire sauter l'enfant sur les genoux, tout ça. Enfin.
Oui, quand je dis le langage, c'est pas seulement les mots, c'est aussi évidemment tous les presque l'aspect guttural de la langue, donc l'agitation, le fait d'avoir un mouvement aussi, c'est... Il reste quelque chose au niveau du cri, du bruit qui va accompagner.
Langage, bébé,
des
mères, plus que des pères, mais des pères aussi, qui dépassent la simple élocution.
Voilà, exact.
Nous sommes là en plein dans le cœur de vos recherches.
Oui.
Ben, je vous laisse continuer, Ariane Bazan, l'autre conférence.
Oui, la seconde conférence, c'est nous avons vraiment la toute grande chance d'avoir un neuroscientifique grande envergure qui nous vient de Suisse, Patrick Villemier, qui va parler des neuroimageries fonctionnelles, des paralysies psychogènes. Alors les paralysies psychogènes, il y a 100 ans on aurait probablement dit, ou il y a 50 ans on aurait probablement dit des hystéries de conversion, c'est-à-dire des mal-êtres, des symptômes qui vont se présenter sur le corps, le fonctionnement du corps, par exemple, ici ce sont des paralysies, ça peut être aussi des anesthésies, des paresthésies, des strabismes. Donc quelque chose qui, dans le fonctionnement du corps, tout d'un coup se met à dysfonctionner et pour lequel il n'y a pas apparemment d'origine biologique, mais une origine psychogène. On est dans l'hystérie de conversion. Et rappelez-vous que c'est avec l'hystérie quand même que l'histoire de la psychanalyse a commencé. Hein, les hystériques se font des symptômes sur la représentation. Elles font des symptômes sur la représentation du corps, pas directement sur le corps. Donc, voilà l'élan psychique. Hein, si, par exemple, pour donner un exemple très concret, si on a un mutisme neurologique, ce mutisme, donc le fait de ne pas pouvoir parler, il est toujours approximatif. Il y a toujours un peu un reste. On peut toujours dire quelques vocables, et puis on a aussi...
Dire oui de la tête.
Oui, où il y a souvent une rime ou une grossièreté qui reste, et on a aussi des problèmes de compréhension. Mais le mutisme hystérique, il suit l'idée, la représentation du mutisme. Alors, le mutisme hystérique, maintenant ça, je pense que ça se trouve souvent, mais dans le temps de Charcot ou de Freud, c'était un mutisme parfait, c'est-à-dire aucun mot n'est dit, mais la compréhension est totale. Ou une paralysie ou une anesthésie hystérique suit un peu un découpement du corps un peu enfantin. Le bras s'arrête direct comme on pourrait dessiner un bras. Alors qu'une paralysie somatique suit la neuroanatomie, l'implantation des muscles
musculaire, oui, oui, oui. Qui n'est pas, qui correspond pas à ce qu'un enfant pourrait dessiner du corps humain.
Voilà. Donc, l'hystérie, c'est un dysfonctionnement de la représentation du corps, pas du corps directement. D'accord. Et c'est là qu'intervient la psyché.
Vous avez cité le début de la psychanalyse avec des exemples de... Vous avez fait allusion, sans les citer, aux sources de la psychanalyse. Alors, vous pouvez donner deux, trois exemples historiques, justement, de cette hystérie connue. Je suppose Freud en a parlé, non?
Oui.
Un cas célèbre, non? C'est pas ça?
Oui. Un cas célèbre, c'est celui de Lucie. Hein. Moi, j'aime bien apporter ce cas en classe, parce que, voilà, Lucie... une des premières femmes de l'humanité s'appelle Lucie aussi, un des cas premiers qui apprend un peu ce que pourrait être une psychanalyse à Freud s'appelle Lucie aussi. Enfin, oui.
Sans Y, j'imagine.
Non, avec Y.
Avec Y. Non, ça.
Oui. Lucie. Exactement. Et donc, il y avait une hallucination olfactive. Et donc, elle vient en fait avec une rhinite, une sinusite, voir Freud, parce que Freud était aussi médecin de famille, était médecin, donc elle vient un peu pour ses problèmes somatiques. Mais Freud, donc quand sa rhinite, quand sa sinusite est soignée, elle reste avec une morosité, un mécontentement, et elle reste aussi avec cette hallucination olfactive. Elle sort du pudding brûlé. Et donc, Freud.
Elle sent du pudding brûlé.
Oui.
Ça se dit en allemand, pudding brûlé.
Je ne sais pas. Et donc, Freud doit aller plus loin que les soins somatiques. Et il la laisse parler. Et surtout, elle lui apprend son métier. Disons qu'il y a cette scène un peu célèbre, pas, mais quand même, lui, il a noté que ça l'a frappé. Donc, il construit toutes sortes d'hypothèses. Il en vient à partir de ses dires. À avoir l'hypothèse qu'en fait elle était amoureuse de son patron mais qu'elle ne se n'osait pas se l'avouer. Donc il lui donne cette hypothèse, il dit ne serait-il pas possible qu'en fait vous étiez amoureuse ou vous êtes amoureuse de votre patron sans le savoir. Et elle, naïve, candide mais généreuse en même temps, dit ah oui, c'est ça. Et elle ne sait pas, j'ai dit mais alors pourquoi vous ne me l'avez pas dit tout de suite. Et alors elle dit. À peu près littéralement, je le savais, mais je ne voulais pas y penser. Et Freud note dans sa biographie, je n'ai jamais eu témoignage aussi direct de ce que pouvait être la défensivité. Donc c'est Lucie, c'est un point de départ.
Pourquoi le pudding brûlé dans cette affaire?
Parce que le pudding brûlé...
On peut savoir.
C'était l'odeur qu'il y avait dans la maison où elle était servante au moment où une scène importante se jouait.
Et il y avait eu un incident dans la cuisine en même temps, et on avait associé l'odeur de pudding du brûlé.
L'anecdote est que, au lieu, le symptôme s'est résolu, pas du fait qu'il n'y avait plus d'hallucination de pudding brûlé, mais qu'elle avait remplacé cette odeur par l'odeur du cigare. L'objet de transfert avait changé.
Très cohérent.
Oui.
Je supposais que son patron fumait le cigare.
Non, Freud fumait le cigare.
Ah oui, évidemment.
Oui, évidemment.
Et pour prendre, raccorder à ce qu'on s'est dit au début, il savait très bien que c'était mauvais, mais il ne pouvait pas s'empêcher de fumer.
Exactement. Un peu de jouissance.
Voilà, le cancer de la gorge, des opérations étaient terribles, douloureuses, mais il continuait de fumer. Ok, donc ça, c'est le deuxième sujet, donc, sur les paralysies psychogènes, comme on dit aujourd'hui.
Voilà.
Et bien sûr, ce genre de cas, aujourd'hui, ce n'est plus si terrible que ça, tomber amoureux de son patron ou d'avoir une vie un peu... À l'époque, c'était terrifiant. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une histoire des maladies, il y a une histoire des maladies psychologiques.
Exactement.
Donc le nom a changé, en accord avec l'évolution de cette histoire. C'est devenu plus techno, paralysie psychogène, et non plus historique, hystérie de conversion.
Exactement.
Alors, conférence suivante, Ariane.
Alors, un autre grand neuroscientifique qu'on est très, très heureux d'accueillir, Yves Rossetti, qui vient de Lyon aussi, qui a travaillé avec Marc Jeanneret, dont je parlais plus en avant. Et l'intention se contente-t-elle d'inhiber? Alors, c'est un titre un peu provoque, mais l'idée est en fait que l'enjeu pour arriver à une action dirigée n'est pas tellement d'avoir des pulsions et des intentions, mais bien de pouvoir inhiber
tout un nombre d'intentions ou de pulsions pour n'en sélectionner qu'une.
Du même genre qui se font concurrence.
Tout le temps.
Comme un troupeau de chiens qui doit passer par la même porte, s'ils veulent aller tous ensemble, ça se coince.
Exactement.
Alors il faut bien en inhiber quelques-uns pour en laisser passer qu'un ou tous l'un après l'autre.
Exactement. Vous avez tout compris.
Bon, allez, on va faire une petite pause. Je vois, c'est tellement passionnant que l'heure avance et quand même, sans toute une émission sans musique, ça ne va pas. Alors, nous avons choisi ensemble du John Coltrane historique, puisqu'on est dans l'histoire. Alors, on va écouter Giant Steps, qui est un morceau qui a fait date dans l'histoire du jazz. Il est sorti en 1959. C'était une rupture musicale carabinée. Il y avait déjà Charlie Parker qui s'était baladé dans les harmonies inhabituelles, donc l'harmonie non classique, les extensions, les accords. Ici, John Coltrane, plus d'harmonie verticale par accord, mais il installe la mélodicité et donc le jeu mélodique. Donc ce sont de longues phrases, on se soucie moins des accords verticaux, avec une virtuosité incroyable. Et donc ça s'appelle Giant Steps à la fois, parce que c'est un pas de géant dans l'histoire de la musique, puis ça tombe bien avec le pas de géant dans l'histoire de l'humanité, qui a constitué la naissance de la psychanalyse et maintenant cette rencontre avec la neuroscience. Voilà, on écoute John Coltrane, Giant Steps. Thank you. c'était le célébrissime Giant Steps par John Coltrane et son band de l'époque, avec Paul Chambers à la basse. Puis sur le disque, il y a trois drummers et trois pianistes. Donc c'est l'un de ces trois, Tommy Flanagan, donc c'était le premier. Voilà, sorti en 59, Giant Steps. Un must, une impro d'enfer géniale du sax ténor John Coltrane. Alors revenons à notre improvisation avec vous, Ariane Bazan et Sandrine de Tante. Donc on est en train de faire un petit survol, d'aller renifler aux casseroles de votre colloque qui se tiendra le 30 novembre, c'est-à-dire vendredi en 8, vendredi 30 novembre de 8h30 du matin à 18h à la salle du Préel à l'ULP. Pour s'inscrire, je vais vous envoyer un mail à l'adresse suivante, psychanalyse et neurosciences, tout attaché, psychanalyse et neurosciences, après cette fin, @gmail.com. Donc, nous étions arrivés à la conférence « L'intention se contente-t-elle d'imiter ?» Effectivement, quand on a une intention, il faut en même temps imiter d'autres intentions concurrentes. C'est ça que vous disiez.
Oui, exactement. En fait, l'idée principale, c'est quand même l'importance de... de l'inhibition dans la naissance de ce qui est de l'ordre psychique ou représentationnel. En fait, j'ai été frappée, peut-être comme d'autres, Freud fait son fameux diagramme de l'appareil mental dans l'interprétation des rêves, et le refoulement, il le met du côté moteur. C'est la conscience qui peut agir sur le monde, et c'est là que se passe le refoulement.
C'est vrai qu'au départ, le bébé, lui, il fait tout en même temps, c'est pour ça qu'il ne sait pas manger encore.
Voilà, exactement.
Voilà, il vire sous son oreille.
Exactement.
Ou bien viser, il faut... Je vais se continuer.
Exactement. Et donc, cette intuition de génie de Freud est tout à fait cohérente avec la neurophysiologie. Quand, par exemple, vous comparez un profil de nos, l'espèce la plus proche, hein, des bonobos ou des chimpanzés avec un profil humain, la différence, c'est que le front, à partir des sourcils, il y a une ligne qui est oblique en arrière. Et donc, ce qu'on a gagné, l'humanisation, c'était le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est en même temps la motricité, l'intention et l'inhibition. Donc, ces choses-là vont de pair. Et c'est l'intuition que déjà avait Freud. En fait, par exemple, pour prendre quelque chose de concret, les membres fantômes. Le membre fantôme, c'est, on pourrait dire, un symptôme éminemment psychique, mental, parce qu'on a mal et on sent un membre qui, objectivement, biologiquement...
On a perdu un bras, il a été amputé, voilà. On a connu ça avec les blessés de guerre, etc. La personne sent encore la présence du membre.
Voilà.
Mais ça se passe dans son cerveau, évidemment, puisque le membre n'est plus là.
Voilà. Et alors, l'idée est que pour le membre fantôme, il y a en même temps une intentionnalité une intentionnalité de mouvoir le membre et une impossibilité radicale de le faire. Et c'est dans cette combinaison de vouloir et ne pas pouvoir, comme je vous disais tantôt, émerge la représentation. Ici, c'est presque une représentation hallucinatoire, parce que ce bras a un vrai caractère de réalité. C'est parce que ici, l'impossibilité d'agir est mécanique, où il n'y a plus de bras. Mais le même principe vaut, en fait, à chaque fois pour chaque intention qu'on a qui est amorcée par des stimuli internes ou externes, mais on bloque l'exécution, donne quelque chose de l'ordre mental, quelque chose de l'ordre du mental.
Là, on a peut-être un peu quitté l'idée, c'est, on parlait d'inhibition. En quoi l'exemple que vous donnez illustre l'histoire de l'inhibition ?
Parce que quand je dis que une intention est amorcée par un stimulus interne ou externe, mais on le bloque, le blocage, c'est l'inhibition. L'arrêt du mouvement, c'est l'inhibition. Et c'est l'arrêt du mouvement qui peut donner lieu à une imagerie mentale, une représentation, quelque chose de l'ordre du psychique. Donc, en fait, le fait même que, par exemple, on a une polysémie linguistique et qu'à chaque fois, dans une interprétation d'une phrase, on doit choisir entre plusieurs possibles interprétations, on doit à chaque fois inhiber une interprétation, eh bien ça donne en même temps une espèce de réalité psychique inhibée qui existe dans chaque sujet.
Alors c'est marrant ce que vous dites, parce qu'on a organisé ici au département de mathématiques à l'UNIF, il y a 2-3 ans, une conférence avec Olivier Houdet, un psychologue français qui s'occupe de l'apprentissage, qui fait des expériences avec des bébés, sur les représentations, il a voulu tester les modèles de Piaget par étapes, etc., structurés dans le temps, d'abord l'acquisition de l'autre, je ne suis pas spécialiste, de l'acquisition de l'objet, puis la permanence, et des questions logiques. Et en fait, on sait depuis quand même pas mal d'années que ce n'est pas aussi simple que ça, et que précisément, il y a des inhibitions qui sont absolument nécessaires pour réaliser certaines étapes du développement psychomoteur, et aussi, c'est là pourquoi le département de mathématiques était intéressé, l'UREM, une recherche sur l'enseignement des maths, parce que pour raisonner convenablement sur un problème de maths, il faut inhiber les mauvais raisonnements.
Exactement.
Autrement dit, ce que vous venez de nous décrire, qui démarre avec une inhibition, je dirais plutôt psychomotrice, puisque plutôt de la montrer par le système moteur, évidemment valable au niveau de la pure pensée.
Mais la pure pensée,
la pensée opératoire
est motrice.
Elle est motrice et en même temps le moteur est pensé, puisqu'il faut bien que des neurones s'activent pour commander les muscles. Donc on retrouve ici une unité du psychisme et du corps, non?
Mm-hmm. Tout à fait.
Tout à fait passionnant. Des inhibitions absolument nécessaires. Et il y a des expériences qui le montrent, hein, on n'a pas le temps de développer, mais qui montrent vraiment que les erreurs de calcul sont faites par défaut d'inhibition de mauvais raisonnement.
Et l'idée là-dedans de la psychanalyse, c'est que ce qui est inhibé n'est pas pour autant à chaque fois non opératoire.
Là, ça continue d'agir. Même
ça
si
peut continuer, mais à un niveau inconscient. Par exemple, les psychotiques qui n'ont pas ce système de refoulement, ils ont une explosion associative, par exemple, du langage. Ça va dans tous les sens. Et ça montre en effet que, probablement, chez tout un chacun, ça va dans tous les sens, mais on inhibe et consciemment, on n'a qu'un seul message linguistique ou qu'une seule action. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas là et que ça n'a nécessairement aucun effet.
Ah oui, tout à fait. Absolument. Il y a des vagues, mais en dessous, il n'y a pas de vagues, mais il y a quand même beaucoup d'eau. Ça compte, et sans l'eau, il n'y a pas de vagues.
Exactement.
C'est l'image un peu.
Non, exactement.
Alors, il nous reste 5 minutes, nous allons les mettre à profit pour un peu développer le sujet de votre thèse avec vous, Sandrine Bedant. Donc, rappelez-nous en deux phrases le titre et le sujet.
Alors, je ne vais peut-être pas me marquer dans le titre pour ne pas perdre tout le monde, mais donc le sujet de cette thèse est d'essayer de mettre en équivalence une paire de concepts qui sont psychanalytiques, qui sont plaisir et la jouissance, dont on a déjà parlé plus tôt, et des découvertes neurophysiologiques au niveau donc cérébral, qui mettent en évidence deux types de circuits qui s'appellent le liking et le wanting, donc l'un qui est du côté plutôt de la volonté motrice d'obtenir quelque chose, et l'autre qui est du côté plutôt satisfaction, plaisir, hédonique, donc un plaisir de consommation.
Donc liking, c'est le mot anglais,
voilà.
I like.
Tout à fait, mais ça a été mis en évidence par un neurophysiologiste américain qui fait que donc, les termes sont en anglais.
Liking pour le mouvement et le...
Non, le liking pour le fait d'apprécier quelque chose, donc la consommation de l'objet, et le wanting pour...
Le
wanting.
Wanting, ah oui.
Vouloir, oui. Voilà, et qui est, on pourrait en faire une traduction, mais qui est une interprétation sur le versant du désir, mais qui est donc le vouloir quelque chose, et donc ça a été mis en évidence sur... des rats, comme d'habitude, qui sont prêts à parcourir un certain chemin une fois que ce circuit est activé et qui ne s'arrêtent pas, donc qui ont une agitation motrice effrénée, quitte à délaisser tous leurs besoins physiologiques de base, parce que cette activation motrice est, ce qu'on pourrait dire, jouissive, en tout cas, elle leur procure une satisfaction.
Comme on l'a dit au début d'émission.
Exactement.
Indépendamment du rétablissement des paramètres physiologiques.
Voilà, tout à fait. Et le plaisir, le liking, de l'autre côté, ça c'est vraiment la satisfaction au fait de consommer, dans le cas du rat, du sucre ou quelque chose de, qui donne du plaisir. Et en psychanalyse, on a deux paires de concepts qui sont très très utiles dans la clinique, qui sont d'une part le plaisir, qui est du côté de la satisfaction de quelque chose, qui est au niveau d'un apaisement de la tension, et la jouissance, qui est ce qu'on disait tout à l'heure, le côté plutôt moteur, voire ravageant à un certain niveau, mais qui au départ est plus ou moins bien mis en corrélation, même si, comme le disait Ariane, il y a une certaine béance entre les deux. Et donc, sans entrer dans les détails, l'hypothèse de cette thèse et de pouvoir travailler avec ces deux paires de concepts et de voir jusqu'où je peux les amener à une certaine équivalence et en travaillant pour ce faire avec une population de fumeurs. Non pas parce que les fumeurs sont plus jouissifs que d'autres, mais simplement parce que la jouissance étant singulière chez chacun, il ne faut pas être du côté d'une psychopathologie quelconque pour avoir un rapport à la jouissance, c'est un peu ce qui nous structure. Mais on peut, en tout cas je fais l'hypothèse que quand je travaille avec des personnes qui consomment un certain objet d'addiction et que je travaille sur leur objet d'addiction, donc je leur pose un certain nombre de questions, je leur fais travailler autour de ça, eh bien je peux approcher d'un petit peu plus près leur rapport à la jouissance, spécifiquement dans un deuxième temps de la recherche où j'essaierai de travailler avec des personnes qui sont vraiment dans un rapport à la cigarette qui est ravageant pour eux et dont ils sont conscients. Donc ils essayent d'arrêter, ils ne veulent plus consommer, ils n'ont plus, mais pourtant ils le font quand même, quitte à ce qu'ils aient des troubles, d'autres maladies, que ce soit cancer ou autre, qui soient corrélés.
Il y a des difficultés à prendre des fumeurs, parce que là on sait qu'il y a des mécanismes neurochimiques qui entrent en jeu, puisqu'il y a les endorphines qui sont remplacées par la nicotine, et donc ça trouble l'équilibre physiologique. Et donc là l'addiction elle est presque commandée par un dysfonctionnement physiologique.
Oui, non, c'est une question assez juste. Maintenant, le fait est que la dépendance physique à la nicotine, mais même à toutes les autres drogues, même si en effet il y a des modifications neurophysiologiques dont certaines ne sont pas modifiables, la majorité sont modifiables et disparaissent au bout d'un certain temps. Et ça, quelles que soient les addictions. C'est pas pour rien qu'actuellement les hôpitaux fonctionnent avec des cures de désintoxication, que ce soit alcoolique et autres, parce qu'en effet, au niveau du traitement physiologique, du sevrage physiologique, il se fait très rare. Par contre, là où tout échoue, parce qu'on s'arrête aux symptômes, c'est sûr, tout ce qui s'est mis en place autour de cette addiction et qui est du côté psychique, beaucoup plus que du côté physiologique au sens des...
sujet de notre conversation et de notre
colloque. Tout à fait, on y est arrivé.
C'est vrai. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, chers auditeurs, et si vous faites partie de la communauté universitaire, on vous fera une réduction pour les amis. Recommandez-vous de moi, Alexandre.
Bien sûr.
Inscrivez-vous à Psychanalyse et Neurosciences au pluriel tout attaché. Psychanalyse et Neurosciences au pluriel, @gmail.com. Voilà, ce sera donc vendredi 30 novembre 2012, de 8h30 à 18h à Dupriel. Et nous avons parlé de tout ça avec Sandrine de Tante et Ariane Bazan. Merci beaucoup d'être venue.
Merci à vous.
Et vous régaler par ces recherches originales et qui renouvellent nos sujets. Dans tous les sens du bon sujet. Voilà. C'était Science en conscience, les guérines de l'âme. Oui, mais conscience sans science, les guérines d'un gros. La technique Nathalie, au micro Alexandre Weinberg. Salut à tous.